Point de Mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Ce Point de Mire sur Canal Académie est consacré à un groupe de travail de l'Académie des sciences morales et politiques. Il faut savoir en effet que les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent régulièrement en groupe de travail afin d'examiner au fond, selon leurs disciplines respectives, des sujets en rapport avec ces disciplines et de publier un compte-rendu de leurs analyses et de leurs réflexions, compte-rendu qui peuvent servir à éclairer le gouvernement si ce dernier le désire. Il y a donc plusieurs sections, plusieurs groupes de travail qui fonctionnent et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques qui ont formé un groupe de travail qui se penche sur des points de droit et plus particulièrement sur la coopération possible en matière juridique entre la France et la Chine. C'est pourquoi j'accueille aujourd'hui un juriste parmi les plus éminents de France, Monsieur François Théré, et une des meilleures universitaires connaissant la Chine, Madame Basserite Bruguière. Madame Bruguière, bonjour.
Bonjour Madame.
Monsieur Théré, bonjour.
Bonjour Madame.
Lequel de vous deux a initié ce groupe de travail?
Monsieur Théré.
Oh, écoutez, l'initiative est un petit peu accidentelle. Elle est venue du retour d'un de mes anciens élèves, assistants, qui revenait de Shanghai, et qui m'a expliqué qu'il y avait une demande de coopération ou de concentration peut-être des diverses coopérations avec les universités et les milieux juridiques et judiciaires chinois. Et c'est à cette occasion que, sur son impulsion, sur son idée, que je me suis dit qu'on pouvait tenter, dans le cadre de l'Académie, d'essayer de remplir un certain nombre de fonctions qui pourraient satisfaire, dans ce monde où on parle de tous les côtés de la Chine, cette coopération qui est importante, mais qui est évidemment très difficile.
Madame Basserite Bruguière, la Chine, on n'apprend ça à personne, c'est un très vaste continent, un très vaste pays. Est-ce que, à l'heure actuelle, les droits dans les différentes contrées de Chine sont similaires partout ou est-ce que les droits sont différents?
C'est un pays centralisé et dans lequel le Parti communiste tient tous les fils ou essaie de tenir tous les fils. Donc c'est un pays dans lequel il y a un droit national. Mais c'est un très très vaste pays dans lequel l'application du droit diffère beaucoup selon les lieux. Et la question de l'unification du droit, de l'unification des pratiques judiciaires, l'unification de l'interprétation du droit est un problème considérable. Donc on peut prétendre qu'il y a plusieurs droits en Chine, c'est vrai. En même temps qu'un droit national.
Monsieur Théré, donc ce groupe de travail qui porte, je crois, le nom de coopération judiciaire franco-chinoise.
Oui,
c'est un nom que vous lui avez donné comme
cela. C'était un nom approximatif. Nous n'avions pas réfléchi à l'avance sur le problème de la dénomination de ce groupe de travail de l'Académie qui a essayé de démarrer un petit peu ses activités de manière prudente, en essayant de voir d'ailleurs avec diverses personnes venant de là-bas, même du Canada, pas seulement donc de Chine, mais du Canada, et des sinologues français, juristes sinologues français, ce qu'on pouvait faire dans ce domaine. Évidemment, il faut constater que dans un premier temps, des réflexions, mais ça je pense que vous devrez poser des questions plus particulières, je m'apercevais il y a quelques jours à quel point on pouvait mener une réflexion comparative sur ce qui s'est passé en Union soviétique depuis l'éclatement de l'Union soviétique et ce qui se passe en Chine. Car en définitive, ce qui apparaît dans toute l'évolution, même du code civil russe maintenant, de la Fédération de Russie, c'est que le premier problème qui s'est posé après l'éclatement de l'Union soviétique, c'est le problème de la terre. Et c'est par là qu'ils réagissent à l'idée de privatisation. Seulement, eux, ils remontent maintenant dans leur réflexion avant 1917. Et c'était pas forcément un régime de propriété privée tel qu'on a pu le connaître. Et alors, c'est aussi ça. Mais alors là, c'est de manière très globale et approximative qu'on peut s'interroger sur les passages d'une économie à une autre. Il y a une économie de marché, puisque le mot est à la mode.
Donc je suppose, et j'ai compris, que dans ces réunions de travail, vous invitez des personnalités chinoises. Ces personnalités, vous les connaissiez, Madame Basserite Bruguière,
ou vous les avez découvertes? Non, il y en a un certain nombre que je connais parce que j'appartiens à une famille de juristes. J'ai résisté au droit, si je puis dire.
Voilà, c'est une confession.
Mais en même temps,
vous êtes très juriste.
J'ai beaucoup d'intérêt pour les questions juridiques. Je suis en rapport avec beaucoup de juristes, tout en étant tout à fait ignorante de ce domaine particulier. Donc, je connaissais beaucoup de juristes chinois. Il y en a certains plus jeunes que je ne connaissais pas encore, et donc j'ai fait connaissance. Mais c'est pas un milieu qui m'était du tout étranger en Chine.
C'est ce groupe de travail, Monsieur Théré, s'est réuni les 27 et 28 mars 2006. Vous étiez combien et quelle méthode de travail avez-vous adoptée?
C'était pas la première réunion, il y en avait une encore il y a quelques semaines. La première réunion était encore, et la seconde, la deuxième aussi, était au fond consacrée au moyen de dégager un certain nombre de thèmes et d'objets de réflexion dans un premier temps et suivant une méthode très prudente que nous avait conseillé le chancelier Mesmer qui était venu à la première réunion. Les membres participants à cette réunion sont tous ipso facto membres du groupe de travail. Alors il y en a qui sont sinologues, qui parlent chinois, il y en a d'autres qui ne le sont pas, il y a des comparatistes et puis il y a d'autres qui sont pas vraiment des comparatistes. Mais c'est au fond leur préoccupation d'aller à la rencontre de ces demandes, tout en s'inspirant d'ailleurs au passage des expériences de pays voisins d'une autre qui ont en cette matière une certaine avance sur nous comme l'Italie. Et notamment, les Italiens qui devaient venir ne sont pas venus le deuxième jour de ces deux jours que vous annoncez, à cause de la manifestation de mardi dernier.
Alors, si je comprends bien, Madame Basile Bruguière, dans ce groupe de travail, on parle un peu toutes les langues. Comment les Chinois, comment vous exprimez-vous? Est-ce que vous avez adopté une langue commune?
Non, mais les Chinois qui participent à ce groupe de travail sont francophones.
Ah oui.
Ce sont généralement des juristes chinois qui ont fait des études ici et qui s'intéressent particulièrement à ce que le droit français pourrait apporter à leur entreprise de recodification de leur propre droit. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté de langue.
Pourquoi le droit français pourrait-il justement apporter? Est-ce qu'il apporterait... Il y a une demande vers le droit français plus particulièrement que vers le droit d'un autre pays occidental. Pourquoi?
Si je résume mes expériences qui sont lointaines, mais qui dataient de la période mauvaise entre 1947 et 1978, où je m'étais propulsé un petit peu à partir du Cambodge dans le monde chinois, ce qui m'a toujours frappé, c'est que finalement, et je vais vous en donner un exemple, ils ont plus de mal, me semble-t-il, je parle sous votre contrôle, cher consoeur. Je me demande dans quelle mesure, et ils me l'ont affirmé, ils ont du mal à accepter des concepts du droit anglo-américain. Et ils sont plus proches de nous que probablement les juristes anglais ou américains sur certains domaines. Je vais vous prendre un exemple typique qui montre bien qu'il ne faut pas forcément passer par la langue anglaise pour encourager la coopération.
Voilà
un exemple
nouvelle.
Typique, c'est le droit d'auteur. Le concept de droit d'auteur, il est né, il est agité en ce moment pour d'autres raisons en France, mais c'est un concept typiquement d'origine continentale européenne. Et ils l'ont. Ils me l'ont dit, en tout cas ils l'ont. Et en revanche, dès qu'on commence à parler du copyright, tout déraille. Et pourquoi? C'est parce qu'on s'aperçoit, me semble-t-il, dans un premier temps de réflexion, que nous sommes plus proches des Chinois sur ces concepts-là que du monde anglo-américain.
Madame Basile Bruguière, partagez-vous
ce point de vue. Je vous demande
entre...
votre contrôle, parce que là...
Les Chinois ont une tradition de droit qui comporte la codification. Ils ont l'idée que il y a un code, ils avaient un code, qui est d'ailleurs remarquable, qui est un code surtout criminel, mais qui... Donc l'idée qu'on écrit la loi, qu'on la codifie, c'est une tradition chez eux qui remonte à 2000 ans, enfin c'est très ancien. Quand leur droit a commencé à évoluer à la fin du 19e siècle, et ils ont à ce moment-là traduit, il y a eu une traduction du code Napoléon en chinois, pas très bonne d'ailleurs, malheureusement, et ils se sont inspirés surtout du code japonais. Et le code japonais lui-même, qui, alors que le droit japonais sortait du droit chinois, le code japonais moderne, qui est le code de l'époque Meiji, a été rédigé sur le modèle du code allemand. Alors le code allemand, c'est un droit continental, c'est du droit sorti du droit romain. Quand les Chinois ont fait évoluer leur droit et qu'ils ont sorti des codes nouveaux eux aussi, tout à fait au début du XXe siècle, avant même la création de la République, c'était, ça venait du droit japonais et par le droit japonais, du droit allemand, donc du droit continental, donc de traditions qui sont quand même, qui sont différentes des traditions françaises sur certains points, mais Monsieur Théret vous expliquera mieux que moi, mais enfin qui sont quand même, c'est la même famille. Donc c'est ça qui est dans leur expérience juridique, et c'est quand même ça qui est la base. Et dans un très grand pays, finalement, le code c'est assez commode, parce que vous l'avez dans toutes les provinces, et puis on se réfère au code.
C'est comme le droit coutumier français qui a été remplacé par l'unification
napoléonienne. Oui, parce que c'est plus commode d'avoir quelque chose qui est net, même s'il y a des interprétations différentes selon les juges, et dans les jugements, etc. Il y a une jurisprudence ensuite, mais malgré tout, la base, c'est assez...
C'est la même famille.
Oui.
J'ai aimé cette expression.
Ça a des avantages. Mais maintenant, sur les concepts juridiques même, il y a effectivement certains concepts qui sont assez semblables et d'autres qui appartiennent à leur tradition aussi et qui font qu'il y a certains éléments qui sont différents. Mais qui sont pas, c'est pas plus proche du droit anglo-saxon pour cela. Hein.
On retrouve une comparaison entre le problème du droit soviétique, parce que avant, il faut remonter avant 1917 comme là-bas avant 47. Or, si on remonte avant 47, c'est le droit romano-byzantin qui avait influencé les codes russes. Et à travers le droit romano-byzantin, c'est le droit romain. Et on retrouve par des chemins différents des états assez semblables.
Oui. Alors voilà, un point d'histoire de la filiation du droit en Chine. Est-ce que c'était les Chinois qui étaient demandeurs de cette coopération ou c'est plutôt finalement une demande ensemble de regarder les choses ensemble?
C'est une demande d'assistance qui est éparse, qui n'a pas été officialisée, qui s'est manifestée de diverses manières, y compris au ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice a donc détaché à Pékin un magistrat français qui est chargé de cet ensemble d'actions. Mais il y a, de ce point de vue, un petit peu partout en France, des initiatives qui ont été menées dans le cadre de centres universitaires, de centres de droit comparé, un peu dans quelques universités françaises. Et c'est aussi une de nos préoccupations, c'est d'éviter qu'il y ait des actions qui ne soient pas suffisamment au courant les unes des autres. Et l'on veut éviter les rivalités entre universités qui n'intéressent pas les juristes chinois qui sont venus, d'autres sont venus récemment. Et le fait est qu'ils sont très liés avec le notariat. Le notariat français est en avance sur les autres professions juridiques et judiciaires en Chine.
On apprend des choses.
Oui.
Parce qu'il y a le problème de la propriété.
Oui. Ah ben voilà, on y revient.
Oui.
Oui. Et visiblement, alors, comme on veut toujours comparer et assimiler, on se demande pourquoi cette préoccupation est première. C'est en réalité une préoccupation d'investissement. C'est le problème justement du passage à l'économie de marché. Mais pas du tout comme cela avait pu se produire dans les années 1960 dans le monde africain. Dans le monde africain, encore le problème de la terre, mais dans le monde africain, le problème qui s'était posé dans les années 60, j'avais été pas mal en Afrique à ce moment-là, c'était le problème des codes. Les premiers codes que voulaient faire les Africains, c'est les codes des investissements. Il y a des modèles qui existent, mais l'esprit dans lequel ils sont envisagés du côté de la Chine et même du côté de la Russie, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas forcément des garanties pour les investisseurs, bien sûr, ça compte, mais la compréhension de la mentalité des investisseurs qui préoccupent aussi les Chinois.
Alors, dans ce groupe de travail, vous en êtes donc à votre deuxième réunion. Vous avez abordé quel thème? Vous disiez que vous aviez des thèmes à répertorier. Quels ont été quelques-uns des thèmes, par exemple?
Écoutez, il y en a quatre ou cinq. Le premier, qui ont ordonné un petit peu notre démarche. La première préoccupation était la préoccupation initiale d'essayer d'abord de concevoir une réunion des efforts, une coordination des efforts, et cela pourrait même se faire assez vite avec le net sur un site ou sur le site de l'Académie où on réunirait pas seulement justement tout ce qui est sur papier, mais même tout ce qui, ou à partir de ce qui est sur papier aussi, toutes les informations qui pourraient faire l'objet d'une centralisation et une centralisation des activités aussi des centres divers de droit comparé et même de l'INALCO, enfin l'ancienne école des langues orientales et d'autres organismes. Cette préoccupation, on commande une seconde. La seconde préoccupation concerne, c'était aussi une des préoccupations qu'avait exprimé le chancelier Messmer, concernant l'établissement, une centralisation de la documentation existant en France déjà pour connaître comment on connaît, si l'on peut dire, oui. La mentalité des interlocuteurs. Et là, je me suis rendu justement dans un service que m'avait conseillé Madame Bastide Bougia, je la remercie, j'ai été voir une personne qui s'occupe de la centralisation de tout ce qui... Madame Le Vulac.
C'est la future grande bibliothèque de langue et civilisation de l'Asie orientale qui est en cours de construction près de la bibliothèque François, mais près de la bibliothèque nationale.
Il semble que ça ne soit pas opérationnel avant...
Il y a encore du temps, mais 2008, il y a un catalogue.
Et j'ai vu, elle m'a montré sur un plan, les locaux à venir, c'est excitant.
Ah oui, ça sera bien.
C'est excitant. Alors là, c'est la première préoccupation, une préoccupation de recension de ce qui existe.
Centralisation et recension.
De l'information, en tout cas, avant que ce soit celle des
documents. Des livres sur les rayons, oui.
Voilà, absolument.
Mais au moins savoir où c'est.
Et un autre thème encore, monsieur?
Oui, alors le deuxième thème qui a été envisagé, enfin le troisième si on peut dire, centralisation, bibliothèque, troisième thème qui a été envisagé, c'est préoccupant, c'est celui des traductions. Parce que de ce point de vue, on s'aperçoit que les traductions d'abord sont coûteuses, et puis il y a les deux phénomènes, la traduction du chinois en français, puis du français en chinois, avec la conscience du fait que des livres français traduits, Il y en a pas mal déjà qui sont traduits, ne sont pas diffusés à nombre de lecteurs ou de connaisseurs en commune mesure avec la population. Mais ça, je crois que ce n'est pas le phénomène qui devrait perturber quand même cette entreprise. Et le vrai problème est un problème de financement. Mais là, il y a peut-être des solutions de divers côtés. Et notamment, il y a quelques semaines, le ministère de la Justice a déjà amorcé la constitution d'une fondation pour la défense du droit continental européen, qui est d'ailleurs la réaction à une action et à un livre qui a beaucoup choqué l'Europe, qui vient des milieux d'affaires américains, sur le thème Doing Business. Et sur ce thème, ce rapport a été accablant pour les droits occidentaux, ce qui a fait réagir tout le monde des affaires français qui considérait que les critiques présentées étaient discutables. Et c'est à partir de là qu'à la chancellerie, mais c'est une opération de longue haleine, et il a été prévu, enfin il a été lancé déjà par une association précédant une fondation, cette fondation pour le droit continental européen, mais pas du tout dans un cadre, dans un sens de défense d'une certain nombre de théories, mais plutôt dans le sens de l'aide que justement les financiers et les juristes peuvent s'apporter les uns aux autres dans ce développement, qui concerne aussi la Chine, et c'est pour ça que j'en ai parlé, et le garde des Sceaux y est très attentif, et son cabinet aussi.
Alors, à quel rythme de travail allez-vous travailler? Vous en êtes à deux réunions dans ce groupe de travail de coopération franco-chinoise. Qu'envisagez-vous pour le prochain futur?
Il y avait aussi peut-être aussi, sans doute dans le cadre, peut-être avec l'aide de la Fondation Chino del Duca, peut-être une réunion initiale sous forme d'un colloque qui pourrait être prévu dans un délai d'une année.
Donc ça, c'est un projet. Vous y êtes, je suppose, très participante, Madame Bastide Bougia. Colloque sur la Chine,
il y a déjà
tant de
colloques.
Non, mais il y a beaucoup
sur la
de
Chine.
Sur le droit chinois, non. Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour en parler. Mais enfin, c'est certainement une entreprise à laquelle je m'associerai volontiers.
Donc, c'est un groupe de travail de longue haleine. Alors, je vois que ça ne va pas donner.
C'est
des
comme le droit européen des contrats.
Voilà.
Mais peu importe.
Parce que c'est un suivi. Si vous voulez. Et il faut voir la législation chinoise et l'entreprise de codification chinoise qui est en cours actuellement. Elle a connu des revers parce que ils se sont lancés sur certaines pistes et puis ils ont fait machine arrière parce que simplement, comme chez nous, les éléments à codifier changent et on ne sait pas quelle est la forme la plus adéquate. Quel concept il convient de prendre, quel est celui qui sera le plus utile pour l'avenir. Donc tout ça, ça demande beaucoup de réflexion. Donc je pense qu'une entreprise comme celle qu'a lancée M. Thérèse, c'est sur le long terme, c'est un accompagnement d'une coopération qui change, qui concerne la formation des magistrats, qui concerne la formation des juristes, qui concerne la comparaison des textes, la traduction des textes, l'exactitude des traductions. Parce que dans la traduction, il y a non seulement le prix que coûte la traduction, mais le choix des termes. Et ça n'est pas du tout innocent.
Surtout en matière juridique, évidemment.
C'est très difficile.
Encore plus qu'ailleurs.
Il y a eu des termes qui ont été choisis à certaines époques, d'autres traducteurs qui en choisissent d'autres, et cela crée des confusions. Et donc là-dessus, il y a vraiment un travail de fond à faire.
Ah oui, absolument.
Au cours de cette réunion sur la traduction, la conclusion qui s'est dégagée des discussions était qu'on ne peut pas confier à un interlocuteur de l'un ou de l'autre des pays le soin de mener seul une traduction. Non. Un Chinois traduira un code français, mais il faut que ce soit contrôlé par un juriste français sinologue. Mais il n'y en a pas tellement.
Non, mais il y en a maintenant.
Il y en a beaucoup plus qu'avant.
Oui, qu'auparavant, oui.
Alors, je voudrais vous demander si vous aviez autre chose à ajouter pour nous parler de ce groupe de travail. Aviez-vous un autre point que vous souhaitiez développer,
je constate qu'il faudrait réunir il faudrait aussi s'interroger, ce qu'on a dit, sur l'état de l'activité dans des pays voisins du nôtre, pas seulement l'Italie, mais l'Allemagne.
L'Allemagne,
il y a beaucoup de choses en Allemagne.
Il y a beaucoup d'initiatives en Allemagne.
Voilà. Oui. Alors que ce soit Heidelberg ou à Hambourg, dans la constitution d'un site, cela fait partie de nos projets.
Non, mais c'est indispensable.
Oui. À Londres aussi.
Oui. Aussi, parce que il faut savoir ce qui se passe.
Je crains que vous en ayez pour de nombreuses années.
Oh, non, mais c'est extrêmement intéressant. Et en même temps, c'est un moyen aussi de tisser entre Européens des rapports nouveaux, parce qu'ils mettent en commun certaines de leurs idées, sont obligés d'aller plus au fond et de savoir ce qu'ils veulent.
Donc, ça a de multiples avantages. Donc,
ils ne le savent pas toujours eux-mêmes.
Non, mais il y a des questions qui ne se sont jamais posées, qui se posent parce qu'un Chinois les interrogera sur tel ou tel point, parce que ça allait de soi. Puis tout d'un coup, ça devient... Ben non, c'est pas aussi évident.
Mais le notaire est un personnage qui devait avoir des antécédents dans la vie. Le monde chinois, pas le notaire américain qui donne des tampons.
Non, mais on enregistrait la vente des terres chez le magistrat. Il y avait un enregistrement officiel. Mais ça n'était pas un officier, comme chez nous.
Public,
non. Mais toute vente de terre, les locations aussi, étaient enregistrées. Et il y avait un sceau officiel. Donc, ça entre dans l'orbite des fonctions, enfin des compétences de l'État, quand même.
Oui, parce que...
Leur préoccupation, c'est que l'État n'est plus très crédible en Chine. Enfin, les personnes privées se méfient de l'État. Donc, il faut trouver un arbitre, une tierce personne, en qui on aura confiance, qui peut établir et garantir, au fond, la réalité des transactions.
On est loin du cadastre, à la française, et on a mis des siècles à le mettre vraiment au point.
Oui, il y avait un cadastre en Chine, en réalité, pour l'imposition, il y avait un cadastre. Mais les rapports entre le cadastre, l'enregistrement des ventes, des locations, etc., n'est pas le même que chez nous. Donc il faut trouver un autre équilibre, un autre système.
Le bail de longue durée est sans doute un des outils qu'il faut, le bail à construction en France. C'est cela, je l'avais préconisé, je l'ai écrit dans un code pour les nouvelles hybrides. C'est ça, parce que la terre est encore, il ne faut pas trop toucher au domaine éminent de l'État.
Non, mais je crois que, d'ailleurs, je ne pense pas que le gouvernement chinois soit prêt.
Non.
Et je ne suis pas sûre du tout non plus que le public chinois y soit prêt. À la propriété privée, vraiment, complètement, je ne pense pas. Mais il y a des formules qui sont entre les deux. Hein.
Tout le monde du Pacifique Sud est un monde dans lequel l'accès à la divinité se réalise via la terre et pas au ciel. Et par conséquent, si vous créez une espèce de propriété de type romain, kiritaire, absolue et exclusive, vous coupez la relation entre l'homme et la divinité. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant d'histoires avec les Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Ils n'avaient jamais pensé que leur terre était vendue aux colons. Jamais.
En tout cas, on voit que le droit peut déboucher sur l'histoire, on s'en doutait, mais aussi sur l'anthropologie,
la géographie,
sur de multiples disciplines. Alors, je vais seulement former des vœux pour que votre groupe de travail continue sur de très bonnes bases. Il a l'air bien parti. Madame Bassine Bruguière, je vous remercie infiniment. Et monsieur François Théré aussi.
Merci.
À bientôt.
Aussi. Thank you.